I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Salut à toutes, salut à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de Deep Talk, émission dans laquelle je débat avec des acteurs de la discipline sur des thèmes d'actualité autour de notre sport. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les plateformes de podcast et sur eurosport.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires. Alors cette semaine, un Deep Talk assez spécial quand même, puisque nous allons célébrer une défaite. Eh oui, c'est comme ça que je présente aujourd'hui ce podcast. Donc, et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir un ami. Ça va être compliqué de faire cette émission avec lui. Donc, Arnaud Clément est parmi nous et on fête donc les 20 ans de cette finale à l'Open d'Australie en 2001. Salut. Comment s'appelle ? Salut Arnaud. Salut copain.
Salut copain.
Salut copain. Ok. On va essayer de recontextualiser un petit peu. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous racontes les mois qui précèdent, parce que tu as quand même une montée en puissance avant cette finale. Tu as quand même quelques très bons résultats, les mois qui précèdent l'Open d'Australie. Est-ce que tu sens les choses venir, sachant qu'en fil rouge, il y a quand même toujours un petit peu Agassi que tu as joué à plusieurs reprises?
Ouais, en fait, c'est vrai que c'est les... ça s'achève un petit peu à l'Open d'Australie, en fait, cette période qui a été pour moi la période la plus forte de ma carrière. Ça a commencé l'été 2000 jusqu'à l'Open d'Australie. Et après, ça a été beaucoup plus irrégulier. Mais c'était une période qui a été extrêmement dense pour moi. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai changé d'entraîneur au début de l'été. Et j'ai eu tous mes meilleurs résultats quasiment de ma carrière sur une période très courte, sur une période de 6 mois, avec Philippe Rozan, entraîneur marseillais, qui m'a énormément apporté, qui est... un des grands acteurs justement pour moi de cette période, à qui je dois beaucoup. Et donc il y a eu une tournée américaine vraiment avec beaucoup de très bons résultats, ma seule demi-finale en Master 1000, un quart de finale à l'US Open, avec mon premier titre à Lyon un peu plus tard dans la saison, et puis l'Open d'Australie en tout début d'année.
À Lyon, tu bats Agassi, Rafter aussi. Donc Agassi, en fait, finalement, tu le joues plusieurs fois quand même avant cette finale. C'est pour ça, revenons un petit peu sur les différents matchs sur lesquels justement tu l'as joué. C'est quoi l'impression qu'il te laisse? Enfin, on sait à quel point il est costaud, à quel point il est fort, à quel point il te prend à la gorge, et l'intensité qu'il met est monstrueuse. Mais finalement, c'est un joueur que tu aimes bien jouer, toi?
Oui, en fait, déjà historiquement, la première fois que je l'affronte, c'est la première fois que je rentre sur le central de Roland-Garros. C'était en 99, et j'ai terrifié à l'idée de prendre une énorme rouste, et au final je passe à 2 points du match l'année où Agassi gagne son seul Roland-Garros. Après, donc, je le joue un petit peu plus tard, et je le rejoue donc en 2000 au deuxième tour de l'US Open. Il est numéro 1 mondial, tenant du titre je crois d'ailleurs, et je le bats assez facilement, très facilement même à l'US Open en 3-7 sur son court, alors qu'il est numéro 1 mondial. Voilà, ça valide un petit peu tout ce qui s'est passé pendant l'été. Je joue très bien, je n'ai pas l'impression de faire le match de ma vie non plus, mais c'est extrêmement, extrêmement fort, extrêmement solide de mon point de vue. Je le rejoue quelques semaines après à Lyon, sur la même lancée. Il se passe exactement la même chose que les 3-7 de l'US Open, sauf qu'il y a un seul set de joué, puis il abandonne pour pépin physique. Et c'est vrai que... après, il y a tout le début de l'Open d'Australie, mais quand je l'affronte en finale de l'Open d'Australie, quand je rentre sur le court contre lui, vu nos deux précédentes confrontations, je me suis dit très clairement et sans prétention, je me suis dit aujourd'hui, je peux gagner un tournoi du Grand Chelem.
On y reviendra à cette finale, juste pour recontextualiser encore. Donc là, tu passes à partir de juillet, tu es 60e mondial. Et là, pour le coup, c'est une ascension fulgurante. Okay, tu rentres dans les 20 en fin d'année. Comment tu l'expliques, toi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu parles d'entraîneur, tu parles que tous les facteurs, finalement, à un moment donné, convergent. C'est quoi? C'est la confiance, des déclics? Tu peux l'expliquer aujourd'hui, cette période assez extraordinaire?
Ouais, je pense que c'est une. Je pense que je dois beaucoup à. Alors, j'ai énormément de reconnaissance envers tous les entraîneurs que j'ai pu avoir, qui m'ont tous beaucoup apporté dans certains domaines et au moment où j'en avais besoin, je pense. Mais à ce moment de ma carrière, Philippe Rozan avait une vision de mon jeu qui n'était pas. Opposé au jeu que je pratiquais, mais qui était un jeu quand même beaucoup plus agressif encore, avec voilà, des prises de balles beaucoup plus précoces, beaucoup plus de projection vers l'avant. Et tout le travail qu'on a pu effectuer allait dans ce sens-là, essayer de gagner, de grignoter un petit peu de terrain en permanence. Et le travail a payé voilà, quasiment tout de suite, quoi, dans le sens vraiment où il voulait que je joue. Et ce début de collaboration a été complètement extraordinaire. Et je pense que je lui dois beaucoup dans ce sens-là, par rapport à mon jeu. Et les choses se passent bien. Il m'a donné aussi peut-être de la confiance aussi pour y aller. Et puis cette confiance, ben, elle s'est accentuée avec les bons résultats immédiats. Donc oui, on peut parler de déclic, on peut parler d'étapes franchies assez rapidement pendant cet été-là. En plus, j'ai été en effet 60e mondial au début de l'été, mais j'étais même avec beaucoup d'incertitudes. J'avais beaucoup de points à défendre. On sait que les joueurs de tennis, quand ils ont des gros points à défendre devant eux, eh ben, ils sont toujours un petit peu inquiets. Et j'aurais pu même, si je n'avais pas joué cet été-là, si j'avais été blessé, sortir peut-être des 100 premiers. En tout cas, ça devait se situer dans ces zones-là. Et j'avais ça, moi, alors c'est pas une qualité, je ne crois pas. C'est peut-être même un défaut par moment, mais j'ai toujours eu mes meilleurs résultats quasiment tout le temps, dans des moments où j'étais dans l'incertitude, où j'étais dans l'inconfort, où j'avais du doute et il fallait que je fasse quoi. Et j'ai au contraire, même s'il y a quelques exceptions, dont l'Open d'Australie fait partie. Les moments où j'étais en pleine confiance de mes moyens, avec beaucoup de certitude, et que j'arrivais sur une tournée, sur un tournoi, bah, souvent ça ne se passait pas comme j'avais prévu parce que j'avais beaucoup plus d'attentes. Et peut-être en attaquant cette période-là avec un bon état d'esprit, avec justement ce côté, il faut absolument que je fasse bien, et ben ça a vraiment bien fonctionné dès le début, dès le premier tournoi où j'atteins les demi-finales. En fait, ça m'a lancé tout de suite vraiment et ça m'a conforté dans beaucoup de choses. Et ça ne me posait pas trop de problèmes, justement, d'arriver sans trop de victoires, même sur un grand chelem, quand je me sentais très fort physiquement. Et je ne me suis jamais senti aussi fort physiquement, par contre, qu'avant cette Open d'Australie. Et avant d'aborder des matchs en 5-7, au meilleur des 5 manches, dans des conditions souvent difficiles en Australie, je me rassurais justement avec cette donnée, me dire, même si je ne joue pas bien en 5-7, il fallait venir me chercher. J'étais aussi. J'ai un statut un petit peu protégé parce que je faisais partie des. J'étais tête de série à l'époque. J'aime bien dire à l'époque parce que c'est à l'époque maintenant. C'était 16 têtes de série et pas 32 têtes de série. Donc ça avait une représentation encore supérieure à aujourd'hui. Et je devais être. J'étais 15 ou 16 et Seb devait être. Voilà, on
Je crois que
était
tu étais tête de
en
série 15, ouais.
15 et Seb 16, ça devait être ça. Et donc. Voilà, la logique de par mon statut, de toute manière, c'était d'arriver en seconde semaine. Voilà, j'abordais vraiment ce tournoi avec un statut différent des autres tournois où, encore une fois, ne pas atteindre la deuxième semaine aurait été une déception. Voilà, c'était étape 1, on atteint la deuxième semaine. On n'était pas, comme j'ai pu l'être 95% de ma carrière, à se dire, bah, et comme beaucoup de joueurs le communiquent aussi, même si ça, parfois ça agace un petit peu certains journalistes, de dire, on prend match par match. C'est souvent ma philosophie. Là, c'était vraiment, oui, on prend match par match, mais le premier objectif, ce n'est pas d'atteindre le deuxième tour. Pour moi, dans ma tête, c'était d'aller en deuxième semaine.
On va justement reprendre ton parcours. Tu bats Robredo au premier tour. Tu bats Alberto Martin, deuxième tour. Tu bats Federer au troisième tour. Tu te rappelles de ce match ou pas?
Il progressait. En fait, je l'ai joué au troisième tour l'année précédente déjà. Où ça avait été un match extrêmement facile parce que très très jeune, Moi, je commençais à être, voilà, à être vraiment costaud dans, voilà, autour de la 50e, 60e place. Lui, arrivait avec beaucoup d'inconstance et des carences encore dans son jeu, notamment côté revers. Il s'agaçait, il envoyait des balles, il parlait aux oiseaux. Enfin, voilà, la raquette n'était pas toujours dans sa main entre les points. Enfin, c'était pas le joueur qu'on connaît aujourd'hui. Et hop, déjà, l'année d'après, je suis encore plus fort. Assez nettement, mais beaucoup moins. Et là, on sent quand même un joueur qui commence à se canaliser, à maîtriser un petit peu plus ses émotions et à progresser dans son jeu également.
Tu lui mets quand même 3-7.
Ouais, mais
Tu
3-7, pas, voilà, c'est pas,
sens
c'était pas, c'était pas clair et net comme
qu'il y
voilà,
a un
l'année
match.
d'avant. Là, c'était,
Tu
y
sens
avait
qu'il
un match, ouais.
progresse. Et toi, Roger, justement, à ce moment-là, alors, est-ce qu'on peut dire, tu imagines qu'il va aller devenir ce qu'il est devenu ou tu te dis c'est un talent pur, c'est un mec qui peut être, je sais pas, top 10, top 5, gagner des grands chelems. Tu vois quoi en lui à ce moment-là et tu l'as donc joué déjà plusieurs fois.
Ouais, c'était la
Tu mesures son talent ou pas? Tu
troisième fois, mais je
le
l'avais
vois
déjà
vraiment?
joué une autre fois aussi. Et ouais, on voit qu'il y a quelque chose dans sa raquette, mais on voit qu'il y a quelque chose dans sa raquette, mais je l'ai déjà vu ça. Moi, j'ai déjà vu sur, j'ai vu d'autres joueurs qui avaient ce caractère un petit peu exceptionnel. En fait, moi, je trouve que ça a été beaucoup plus flagrant. Peut-être pas quand il s'est canalisé. Alors bien sûr, ça a beaucoup joué au niveau de son attitude sur le terrain, mais plus au niveau de son physique. Son physique a commencé à être un degré supérieur. Son talent a pu s'exprimer de manière beaucoup plus pleine. Et c'était pas le cas encore avant. On voyait un joueur qui faisait des coups, qui avait quelque chose dans la raquette. Oui, mais bah, c'est pas suffisant pour aller gagner des grands chelems, pour avoir la carrière qu'il a eu. Imaginer sa carrière, c'était absolument de toute manière impossible, impensable. Mais ouais, quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. On se dit bon, ce gars-là, il peut aller dans les 10, quoi. Mais après, moi, j'ai toujours été très mauvais, hein, au niveau des
En pronostic.
pronostics. Ouais.
C'est pas Scud. Pas comme Nicolas, Escudé, merci. Donc derrière, tu nous dis, OK, Greg Ruzetsky, moi je me rappelle de ce match, je sais pas pourquoi, j'ai ce souvenir, j'ai l'impression que tu le retournes à chaque fois, peu importe en fait. Première, seconde, le mec prend des missiles tout le temps, j'ai ce souvenir, c'est marrant, ça m'a vraiment marqué. Et donc derrière, la pression monte quand même, tu joues Kafel en quart. Là, c'est un gros match, là, ça fait 4-7. Et c'est très serré, il y a deux tie-breaks hein, pour finir. Ça se joue à pas grand-chose.
C'est un des matchs de ma carrière. C'est peut-être le match de grand chelem de ma carrière même. Kafelnikov, je l'ai joué aussi pas de nombreuses reprises, mais je l'ai joué quelques fois. Mais Kafelnikov, on savait que Kafelnikov en grand chelem et Kafelnikov sur un tournoi au meilleur des trois manches, ce n'était pas la même histoire. Kafelnikov en deuxième semaine d'un grand chelem, ben, on savait que c'était forcément à cette époque-là un prétendant au titre. Et donc ouais, c'est très très un match assez particulier. Après, je me lève le matin, ce jour-là tout va bien. Hein. Je suis pas encore une fois, j'ai pas perdu un set jusqu'au quart de finale. Physiquement, j'ai jamais été aussi fort. Je me lève le matin et je peux pas poser mon pied par terre quasiment, comme si je me suis fait une entorse énorme. Et là, je boite pendant toute la matinée. Je me dis mais c'est pas
Mais il s'est
possible.
rien passé, alors qu'il s'est
Il
rien
s'est
passé.
rien passé. Je me suis couché, je me suis réveillé le matin et je pose mon pied par terre. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis bon, bah, je prends mon petit déj. Je me dis, mais je ne vais pas pouvoir jouer. On y va avec Philippe, on va là-bas. J'essaye de m'échauffer. Je prends des anti-inflammatoires hein, pour faire en sorte que la douleur passe. Et puis bon, ça passe doucement, mais je peux à peine m'échauffer, je peux à peine bouger. Bon, bah, le match va arriver. Je vais sur le court avec toujours cette gêne. Puis, je n'ai pas l'impression de pouvoir bouger correctement. En tout cas, à 100% de mes moyens, j'ai beaucoup d'appréhension. Et puis, Kafelnikov, par contre, fait un très mauvais début de match. Et je gagne quand même le premier set, mais c'était très étonnant. Moi, je jouais un petit peu. Enfin, c'est autre chose, je n'étais pas dans une concentration habituelle parce que j'étais surtout concentré sur ma douleur et pas vraiment sur le jeu. Mais je jouais quand même et je jouais pas mal en fait. C'est ça là, aussi l'avantage d'avoir accumulé tellement de confiance, c'est qu'il y a des automatismes. Voilà, et on joue un peu de manière automatique, pas trop mal. Mais Kafel rate quand même complètement sa première manche. Et après, c'est passé. Voilà. Après, avec sans doute les effets de, voilà, des anti-inflammatoires, avec la cheville qui était montée en température, après, absolument plus de douleur. Mais
qu'est-ce qui s'était passé en fait après coup?
Non, absolument rien. Non, c'est un mystère. Hein, c'est un mystère.
Et donc derrière cette cheville, elle te diminue, enfin, elle te handicap encore ou tu
non,
la
non,
sens
après,
tout
après, ah, non, là,
ou ça
après,
part,
après,
ça
plus du
s'estompe?
tout. Non, c'est, après, alors, après le premier set que je gagne, plus rien.
D'accord.
C'est pas bizarre parce
Plus rien.
qu'après je perds le deuxième. Donc, mais bon, quand j'ai plus mal, je perds le set.
Non.
Mais bon, c'était le match commençait pour moi un petit peu dans ma concentration du quart de finale. Vraiment, au début de la deuxième manche, j'avais la chance d'avoir un set dans la poche, mais c'était plus dû vraiment à Kafelnikov qui avait raté son début de partie.
Bon, et là, on arrive, on est au stade des demi-finales maintenant. Tu as battu Kafel en 4 et tu vas te retrouver face à ton pote, Seb Sébastien Grosjean, pour une demi-finale de Grand Chelem. C'est un copain, hein, un ami même, avec qui tu as grandi, avec qui tu t'es entraîné. C'est quand même un moment, j'imagine, enfin, plus que particulier. Tu as dû t'exprimer à de nombreuses reprises sur ce match, mais comment tu l'appréhendes, comment tu le prépares? Est-ce que vous vous échauffez ensemble? Est-ce que tu vois, est-ce que ça change un petit peu vos comportements avant cette demi? Est-ce que vous êtes juste tous les deux très heureux de vous dire que vous êtes en train d'écrire l'histoire du tennis français, vous les deux petits gars de la région PACA? Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là?
Ouais,
c'est
particulier. Alors déjà, ouais, on passait notre temps ensemble, on s'est chauffé quasiment tout le temps, tous nos matchs. Ensemble, on était vraiment fier de notre parcours. On réalise tous les deux une très grosse performance, hein, en quart de finale avec Seb qui fait un match monumental, qui met 3-7, mais c'est une boucherie au grand Carlos Moya. Moi qui fais un match très accroché, mais très belle victoire aussi de ma part contre Kafelnikov, ouais, avec les deux derniers sets que je gagne au tie-break, hein, où je sauve balle de 7 moi au troisième et balle de 7 au quatrième. Bon, c'est très particulier pour nous et ça fait un petit peu de bruit forcément parce que c'est les deux petits gars, même si ben c'était pas relayé à l'époque avec tous les réseaux sociaux comme ça l'est aujourd'hui. Voilà, ça reste l'Open d'Australie, vraiment le quatrième grand chelem. Le quatrième grand chelem, parce qu'au bout du monde, parce que les matchs sont dans la nuit. Mais là, on sent qu'il se passe quand même quelque chose parce qu'il y a des médias qui commencent à nous contacter beaucoup plus, des médias qui viennent sur place aussi pour à partir des demi-finales, des gens qui prennent l'avion un petit peu en catastrophe pour être là ce jour où un Français se qualifiera pour la finale de l'Open d'Australie après des décennies. Et ouais, je pense que ce que tu dis, et c'est vrai, on est assez fiers d'être les deux petits gars de moins d'un mètre 75, un d'Aix, un de Marseille. Alors, il n'y a pas ce côté, pour moi en tout cas, ce côté revanche, justement, mais quand même, voilà, quand beaucoup de. On a entendu beaucoup de commentaires sur le tennis, ça appartiendra aux grands avec des gros services, des costauds. D'avoir fait mentir un petit peu tous ceux qui pensaient ça et en faisant justement quelque chose d'assez grand sur un grand chelem et s'affronter en demi-finale, ouais, on est assez fiers de ça. Après, pour être tout à fait honnête, on sait qu'il y en a un de nous deux qui va être en finale, donc c'est génial. Mais on aurait préféré vraiment d'être chacun d'un côté du tableau et pas s'affronter à ce moment-là parce que le match est assez difficile quand même à appréhender.
C'est dur de jouer un pote comme ça à ce niveau de la compétition, de rentrer sur le
non,
terrain et de faire
abstraction du dur.
Fait de jouer un pote.
Ouais, c'est dur, mais pas pour moi. Voilà, moi pour moi c'est pas dur. Moi j'ai toujours réussi. Moi j'ai jamais été quand j'étais sur un court, j'ai jamais trouvé de l'agressivité pour battre mon adversaire en me disant certains c'est le cas, hein, c'est-à-dire il faut que je déteste mon adversaire vraiment pour trouver l'agressivité en moi pour pouvoir le battre, pour pouvoir lui faire mal. Moi j'ai jamais eu ça. Par contre je réussissais moi contre les Français, je réussissais plutôt bien en général contre les Français parce que j'arrivais à faire abstraction de ça et à oublier vraiment qui était en face. Alors contre Sébastien c'est particulier, c'est plus dur, c'est pas la même relation, c'est une relation qui est beaucoup plus forte, J'y arrivais quand même en général, parce qu'on s'est joué quand même quelques fois. Ce qui était plus dur pour moi, par contre, et pour nous, je pense aussi, c'était de se connaître tellement au niveau du jeu, d'avoir passé tellement d'heures d'entraînement ensemble depuis des années, avoir fait tellement de sets, de matchs d'entraînement, on se connaissait tellement par cœur qu'on avait un petit peu un côté, par moment, à se faire déjouer. Et voilà, ce match que je n'ai pas revu d'ailleurs, pendant très longtemps, j'ai vu quelques jeux assez récemment. D'ailleurs, j'avais une sensation d'un match vraiment mauvais. Et les petits passages que j'ai vus, je me suis dit finalement c'était peut-être pas si mal. C'était peut-être pas si mal que ça. Mais ouais, c'est forcément en tout cas, enfin, un moment très particulier pour nous deux. Ouais.
Pour parler justement du match et de la manière dont il se déroule. Tu sauves deux balles de match, il y a un troisième set irrespirable et c'est là où ça bascule. Est-ce que sur le moment, toi, justement, tu dis tu fais abstraction, mais tu te rends compte de ce qui se passe, le scénario il est fou quoi. Et est-ce que c'est justement pas encore plus dur? Alors après, voilà, on va parler de il n'y a pas d'explosion de joie, c'est difficile, tu dois te maîtriser en fait parce que c'est ton pote en face, alors que c'était peut-être pas le cas sur les autres matchs, au contraire, où tu balançais tes fringues, tes chaussures, tes bandeaux, tes raquettes, tes sacs.
Ouais, ce qui aurait dû être ma plus grosse explosion de joie, en fait, après un match de tennis, n'a été absolument rien d'un point de vue émotionnel, parce que on peut vivre des choses intérieures très, très fortes, mais dans le sport, après, des moments, un match très, très, très physique, où il y a beaucoup de concentration, de tension, je veux dire, devoir maîtriser cette explosion, elle est extrêmement frustrante. Mais je n'ai pas eu vraiment de montée non plus, parce que quelque part, sur la fin de match, je me préparais un petit peu à ça même, parce que le match avait tourné, je le sentais, je réussissais à me très concentrer, mais j'avais pris le dessus j'y ai pensé avant même de la balle de match pour moi. De me dire, mais c'est horrible ce scénario pour Sébastien. Et j'en suis désolé, mais non, pas un scénario comme ça, pas contre Seb, pas sur le ce qui est le plus fort dans notre carrière à ce moment-là. Parce que moi, bon, heureusement, je suis assez content parce que c'est resté le moment le plus fort de ma carrière pour moi. Mais après, Sébastien, dès Roland-Garros, il a rebondi de manière extraordinaire. Et sa saison la plus fantastique, Sébastien, c'est 2001. Hein. Donc avec demi Australian, demi à Roland-Garros, il gagne Bercy, il fait finale au Masters et on gagne la Coupe Davis derrière. Donc bon, c'est son année, bien sûr, j'imagine cette déception toujours pour lui, mais voilà, elle est quand même, enfin, une capacité de rebond fantastique de la part de Sébastien. Mais je viens de vivre, moi, en quart de finale contre Kafelnikov. Par contre, le moment émotionnel, peut-être le plus fort après un match, alors je vais mettre quand même tout ce qui est Coupe Davis de côté, parce qu'en équipe est partagée, donc des moments peut-être encore plus forts par moment, mais dans ma carrière individuelle, ce moment-là a été extraordinaire. Et normalement, ça aurait dû être encore un cran au-dessus après la demi-finale, et ça ne l'a pas été. C'est vrai que le scénario, il est terrible, mais le scénario, on s'en rend compte juste avant la fin pour moi, pas au troisième set, parce qu'au troisième set, moi, j'essaye juste de survivre, c'est tout ce que j'essaye de faire. Même quand je réussis à renverser la vapeur dans le troisième, je suis toujours mené 2-7-1, le match, je ne l'ai pas gagné. Mais donc dur, en fait. Et j'ai l'impression, ouais, il y a un côté un petit peu plus tard. Où j'arrive vraiment à trouver beaucoup plus de positifs et heureusement, parce que je réalise que je viens de me qualifier quand même pour une finale de Grand Chelem à ce moment-là. Mais il y a toujours ce truc dur, vraiment dur, parce que c'était contre Seb et parce que je sais que mon ami, il est forcément à ce moment-là dans un état de souffrance et que on se dit à ce moment-là que est-ce qu'on se relève, combien de temps il va mettre pour se relever d'un tel match, d'une telle défaite à ce stade de la compétition.
Ouais, parce que tu te dis, on sait, quand on est joueur, que des occasions d'aller en finale de Grand Chelem ne sont pas si nombreuses, en général, ça dépend pour qui, mais en général. Et ça, ouais, tu te mets à sa place, donc ton émotion, elle est super contrastée, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il a eu deux balles de match et tu te dis, T'as pas l'impression de lui avoir piqué le truc un peu Alors après, j'imagine que tu as cette joie, tu as cette fierté, tu t'es battu, tu l'as pas volé. Enfin, encore une fois, bien au contraire. Mais vous en avez parlé assez rapidement. Est-ce que après le match, le soir même, vous êtes revu, est-ce que vous avez discuté, vous avez échangé quelques mots ou non, il y a eu un peu de distance quand même?
Non, là, je pense que c'était trop dur. Sébastien est parti assez vite. Je crois qu'il est parti le jour même ou le lendemain. Donc, non, on ne s'est pas revus. Il m'a juste envoyé un message pour me souhaiter bonne chance, bien sûr. Mais c'est tout. Et puis, non, je crois qu'on n'en a pas.
T'as compris qu'il soit parti ou t'aurais pu, je sais pas, souhaiter ou penser le voir rester
Ah
pour la
non,
finale?
ah non, c'était non, moi je trouvais ça normal.
Ouais.
je pas dans un, je pense pas que j'aurais eu la force de rester moi dans un tel contexte et de toute manière par rapport à ce qui suivait, c'était assez logique qu'il rentre le plus vite possible parce qu'il y avait une rencontre de Coupe Davis qui était collée justement à cette finale. Le premier tour contre la Belgique sur terre battue en Europe, donc il fallait rentrer de toute manière le plus vite possible. Et pour lui, c'était normal d'avoir ces 2 jours supplémentaires de préparation. Mais ouais, non, franchement, je m'étais même jamais posé la question. Mais par contre, pour répondre, je pense qu'on sait, je pense qu'on n'en a jamais parlé tous les deux de ce match, jamais.
C'est fou ça quand même.
Je peux pas aborder le sujet, moi.
Vous êtes jamais revenu sur ce match.
Je
C'est
peux
fou.
pas, je peux pas aborder le sujet, moi. Lui pourrait, s'il abordait, on pourrait en parler, mais on se dirait quoi? Franchement, on se dirait quoi? On sait ce qui s'est passé, tous les deux. Je veux dire, on a, même après quelques jours, quelques semaines, je pense que le recul était prêt. Il aurait dû, voilà, je pense qu'il aurait dû gagner ce match. Pas parce qu'il a une balle de match à 5-3, pas parce qu'il a une balle de match à 5-4, mais c'est il y a 2-7-0, je crois qu'il y a 2-7-0, 4-2, 0-40 sur mon service. Là aussi, le match se termine à ce moment-là. On peut même considérer qu'il en a 5 des balles de match, quoi. Tu vois, s'il fait double break au troisième, ben, je pense pas pouvoir revenir. C'est pas. Donc non, voilà, ce scénario, il est tellement dur et enfin, c'est terrible, franchement, c'est terrible que ça soit arrivé entre nous. Mais bon, voilà, c'est comme ça et voilà. Et donc non, on n'en a pas parlé parce qu'encore une fois, bah, bon et puis qu'est-ce qu'on pourrait, enfin franchement, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Non, mais c'est vrai que même sur le ton de la plaisanterie ou ça avait très chambreur, tu vois, mais. Mais non, je pense que ça n'a jamais été voilà, abordé entre nous. C'est vrai que c'est étonnant parce qu'on se dit beaucoup de choses avec Sébastien depuis longtemps. Hein. On partage énormément de choses. Je suis parrain de son fils. Mais ouais, peut-être ça. Ouais, ça voilà, c'est peut-être à lui d'en parler éventuellement s'il le souhaite.
Okay. Beaucoup de pudeur donc autour de ce match. Et allez, on avance. Parce qu'il y a une petite finale à préparer, donc tu bats Seb. Et là, est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe quand même? Est-ce que tu le mesures un peu là, l'engouement? Parce que tu disais, ouais, c'est l'Australie, machin truc. Mais quand même, tu es en finale d'un grand chelem, tu es français, il n'y en a quand même pas chaque année des finales de grand chelem pour les Français. Sur le papier, dans l'absolu, c'est plutôt jouable. C'est ce que tu dois te dire parce que tu l'as battu, enfin, tu restes sur 2 victoires contre lui. Donc, forcément, t'es à bloc avec la confiance. Enfin, puis, finalement, ces premiers matchs, là, tu sauves des balles de match en demi, tu bats Kafel. Enfin, il se passe quand même beaucoup de choses. Bon, lui aussi, tu imagines que, il arrive aussi en pleine bourre, mais j'imagine que tu y crois beaucoup, justement, parce que tu l'as déjà joué, parce que tu aimes bien le jouer, parce que tu l'as battu.
Ouais, j'ai vécu en fait en quart de finale de l'US Open en 2000 une expérience qui m'a énormément aidé justement sur cet Open d'Australie. C'est qu'en quart de finale, alors ça, je me souviens de ce qui s'est passé sur le match, mais je ne me souviens pas exactement de l'adversaire. C'est Kafelnikov, oui, je confonds toujours, enfin, j'ai 2 US Open d'affilée, je confonds, on s'en
Tu
fout.
trouves qu'ils se
C'est
ressemblent?
exactement,
D'accord.
mais ce n'est pas important. C'est qu'en fait, je passe, c'est mon premier quart de finale de ma carrière en grand chelem, je passe complètement à côté de mon match. Et je suis sur cet été, j'y reviens, qui est pour moi qui a été fantastique. Et finir par un quart de finale à l'US Open, c'est fantastique. mais je suis extrêmement déçu d'être passé à côté de mon match. Pas d'avoir perdu, mais de passer vraiment complètement à côté. Et pourquoi ? Parce que je me suis dit, c'est mon premier quart. Franchement, je ne sais pas si je vais en rejouer un autre une fois dans ma carrière. Et je l'ai gâché. Et j'étais tellement, tellement déçu de ça. Et sur le moment, après, j'ai pris du recul et l'été, voilà. Et j'ai surtout trouvé du positif. Mais vraiment, sur le moment, et même quelques jours après, je me suis dit ça, mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de passer à côté d'une occasion fantastique, un quart de grand chelem mince. Et là, ça m'a beaucoup aidé, justement, sur ma manière d'appréhender toute cette deuxième semaine. C'est que c'était mon deuxième quart. Et quand j'ai mon deuxième quart contre Cafel, je dis, ce quart, je ne veux pas passer à côté de mon match. Bon, même si ce petit pépin, je n'avais pas le même état d'esprit. Je n'avais pas cet état d'esprit de dire, ça y est, un petit peu, voilà, mon été est terminé, mon été est réussi. Non, ça, c'est un quart, c'est un événement majeur pour toi, pour ta carrière. La demi, je pense que c'est pareil. Et la finale, c'est pareil. Je l'aborde de la même manière. Mais bon, là, peut-être avec encore peut-être un peu plus de certitude, de se dire, non, bah, c'est sûr, hein, et des finales de Grand Chelem, tu vas pas en jouer tous les jours, et ça sera peut-être, il y a de grandes chances, j'en sais rien, c'est la seule, donc passe pas à côté de l'événement, vis-la pleinement, joue comme tu as fait, il faut pas que tu sois bloqué par quoi que ce soit. Alors c'est pas la meilleure, je pense que les gens qui travaillent dans la préparation mentale, s'ils entendent ça, c'est peut-être pas le meilleur moyen justement de se dire ça, de se rabâcher ça, de réussir sa finale. Moi, ça m'a pas posé de problème. C'était un petit peu une manière que j'avais de raisonner et de me préparer. Mais le problème n'a pas été celui-là. Cas sur la défaite, voilà, mon problème, c'était...
C'est quoi le problème ? C'est que tu as un Agassi qui a déjà gagné 6 grands chelems, qui est monstrueux.
C'était
trop fort sur cette finale, ou...
C'est pas le même joueur. J'ai pas eu le même joueur en face de moi que le Agassi que j'ai joué. Alors, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ok, Agassi, sa carrière. Agassi, forcément, en finale d'un grand chelem, c'est pas la même chose, mais il joue sa demi-finale, il gagne en 5-7 contre Rafter. C'est un match raccroché qui aurait pu vraiment basculer en faveur de l'Australien. Ça n'a pas été le cas.
Tu te dis que physiquement, il peut être un peu cuit pour la finale, après justement ce match.
Oui, alors lui avait 2 jours de repos quand moi j'en avais eu un seul. Moi, ça ne me posait pas de problème. Mais donc, je savais que physiquement, il aurait été bien de toute manière. Mais voilà, ce n'était pas... Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas survolé non plus sa demi-finale. Bon, en fait, moi, dans ma tête, je ne voyais pas de raison particulière à ce qu'il propose un tennis complètement différent. Je m'attendais quand même à quelque chose de plus solide, forcément, parce que ce n'est pas Agassi du deuxième tour ou Agassi d'un tournoi classique, entre guillemets, au Grand Prix de tennis de Lyon. Mais de là, quand même, à affronter un joueur de ce niveau-là, avec un tel écart, parce que Lyon, c'est 2 mois avant, l'US Open, c'est 5 mois avant, c'est un autre joueur, pas au niveau de sa manière de toucher la balle, sa manière de bouger. C'était assez incroyable. C'était là, justement, où je réussissais vraiment à le mettre très loin de la balle. Et en fait, là, il bougeait bien, il bougeait tellement bien que sa position sur le terrain, c'était pas la même. Je ne pouvais pas le faire reculer, en fait. Il était collé à sa ligne. J'arrivais jamais à l'en bouger. Et au contraire, justement, c'était moi qui étais tout le temps en train de reculer. Et plus on recule, plus il avait du temps pour jouer, plus il était un distributeur automatique. En fait, je dis plus il avait du temps. Ça s'est passé en quelques points. Moi, si fort physiquement à ce moment-là, je me suis retrouvé avec des qualités. J'ai une qualité d'endurance, de récupération. Je pense peu commune et là je me retrouvais au bout de quelques jeux complètement asphyxié, j'avais du mal à reprendre mon souffle entre les points et on n'était pas à la même époque, heureusement, où le délai entre les points, il y avait une tolérance qui était largement supplémentaire à ce qu'elle est aujourd'hui, et sinon j'aurais dû enchaîner les points toujours en ayant le cœur.
Tu t'es senti asphyxié, vraiment, tu étais pris à la gorge.
Il y a 3-1, 4-1 au premier set, j'ai du mal à récupérer tellement que ça va vite, parce que j'arrive à tenir un petit peu sur quelques frappes, mais je fais des mini-sprints à droite. Et chaque point est la répétition du précédent. C'était dément. Et
rien à voir avec la pression de la finale. Pour toi, c'est
non,
pas ça.
Non,
c'est le niveau de jeu produit par Agassi.
Non, ouais, je ne suis pas quelqu'un qui a toujours été assez lucide sur moi. Alors, je peux me tromper hein, parfois dans mon jugement. Là, je pense vraiment pas que ça soit le cas, mais je suis assez honnête quand, voilà, quand je vous le dis. C'est à aucun moment, je me suis senti rattrapé par l'enjeu. Ce qui m'a le plus tendu, moi, je l'avais déjà dit, mais c'est vrai, c'est la vérité, c'était l'idée de faire un discours à la fin du match devant des millions de gens. C'est ça, moi, qui me tendait, un discours en anglais, moi, qui était et qui suis toujours une truffe en anglais. Je dis, j'ai là, je vais parler, comment je vais faire? Comment je vais faire? J'étais incapable même d'avoir un papier avec traduit. Moi, j'ai écrit mon discours en français et j'étais allé demander au journaliste de l'équipe, c'était Philippe Bouin, excusez-moi, vous pourriez me le traduire en anglais, c'est mon discours.
C'est
Et après,
Philippe qui t'a traduit ton discours?
en anglais, ouais,
C'est bon ça.
et qui m'a fait ça le. Et qui m'a fait ça le matin du match, je crois. Le matin du match, il me l'a traduit en anglais.
Mais à la
Et
limite, c'est ce qui
donc,
t'a empêché de dormir plus que la finale, quoi, plus que le match.
Ah oui, c'était ah oui, c'était tendu. Donc, j'avais fait qu'un seul discours, gagné ou perdu. J'avais un mot à changer, c'est tout. Donc, c'était
Ah oui,
pratique, parce
d'accord.
que je n'avais pas
Malin,
passé
malin.
ma soirée à écrire de discours quand même. Mais c'était ça. Non, franchement, pour revenir au match, c'était assez impressionnant le niveau de jeu, la solidité du joueur que j'avais en face de moi. Et voilà, on comprend. Et tu aurais peut-être dû m'en douter un petit peu plus aussi que ça allait être ça et que l'écart allait vraiment être important avec le Agassi que j'avais joué précédemment. Mais même si je l'avais préparé, ça aurait rien changé parce que j'avais de toute manière pas les armes pour jouer voilà, quelqu'un qui jouait de cette manière-là, et j'aurais rien pu faire de toute manière, même si j'avais un jeu assez complet, hein, je pouvais monter au filet, faire des services volés, mais bon, là j'aurais pris des retours gagnants, j'aurais pris des passings, j'aurais voilà, mais voilà, rien de ce que j'aurais pu de toute manière tenter de différent n'aurait changé la donne. Le score c'est 6-4, 6-2, 6-2. Je suis mené 5-1 au premier. Hein. Il fait un très mauvais jeu. Je fais un des breaks, mais ça aurait pu faire 6-1, 6-2, 6-2. Donc c'est quand même violent comme finale de Grand Chelem. Mais voilà, je ne pouvais pas faire mieux de toute
C'est quoi
manière.
l'émotion qui t'anime après? Tu restes heureux de ta finale. Tu arrives après, évidemment, en introduction, je déconnais, je rigolais en disant qu'on allait célébrer ta défaite. Je vois, tu sais, toutes les mauvaises personnes qui vont venir dire: Ah, voilà, c'est français, ça, on célèbre les défaites, c'est culturel, voilà. Voilà pourquoi on n'y arrivera jamais avec des Clément et des Di Pasquale qui parlent comme ça. Donc, non, mais qu'est-ce qui t'anime après, justement? Tu
Suis très fier tout de suite.
Ouais, tout de suite.
Ouais, je suis tout de suite ouais, très fier. Bah, déjà parce que j'ai absolument aucun regret sur ce match. Je m'en veux. Moi, j'ai toujours cette chose de me dire, même sur des moments importants où on est déçu, mais on se dit, mais j'ai tout donné, je ne pouvais pas mieux, beaucoup mieux faire, ou voilà, j'ai perdu, c'est comme ça. Voilà. Là, bon, c'est tellement clair, net, précis, tellement aucun moment où je peux me dire, attends, là, peut-être qu'à ce moment-là, si j'avais mieux géré, ou ce point-là, ou cette balle de break, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est le néant absolu, c'est un match tellement à sens unique. Je n'ai pas raté ma finale pour moi d'un point de vue émotionnel ou tennistique, c'est tout. Donc non, je suis juste fier, fier. Et là, je réalise peut-être un peu plus à ce moment-là que je viens de jouer une finale de Grand Chelem, que je suis finaliste de Grand Chelem. Alors oui, non, mais moi, je le prends bien. Je comprends, hein, mais ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Moi, pour moi, je pense qu'un joueur comme moi, avoir atteint une finale de Grand Chelem,
C'est aux autres de le dire, s'il te plaît.
À 20 ans, après 20 ans, j'ai le droit de le
Non, c'est
dire.
monstrueux, bien sûr que tu as le droit de le dire.
Après 20 ans, j'ai le droit de dire parce que j'ai un recul. Voilà, ma
Ouais,
carrière est
non, c'est
terminée
monstrueux.
depuis maintenant 10 ans. Et puis, je suis observateur, toujours observateur du tennis. Enfin, j'ai jamais arrêté de l'être. Donc, je vois beaucoup de choses et je vois beaucoup de joueurs aussi qui ont beaucoup de mérite. Et voilà, et parfois, c'est. Voilà, j'ai un petit côté où je me reconnais en eux, mais. Enfin, moi, faut voir d'où je viens aussi. C'est ça aussi, quoi. Moi, j'étais au lycée. J'ai jamais rêvé d'être un joueur de tennis professionnel. Enfin, ça arrivait comme ça parce que j'ai progressé très vite à partir du moment où j'ai fait que du tennis. C'était un rêve de jouer au tennis et puis d'avoir fait une carrière déjà. C'était tellement inimaginable pour moi de rentrer dans les 100 premiers, puis dans les 50, puis dans les 30. Et puis, en une période très courte, en fait, j'ai vécu des expériences extraordinaires chaque jour, quasiment, chaque semaine après semaine. Donc, c'est... c'est pour moi un moment qui est gravé, qui est unique et gravé à vie, et que j'espère que beaucoup de certains Français de la nouvelle génération auront la chance de vivre et de gagner. Je serais heureux vraiment que, bien sûr.
Tu te rends compte, tu sais combien il y en a d'ailleurs des joueurs français, des joueurs, je dis bien, donc masculins, qui ont fait finale de Grand Chelem?
Non, je sais pas.
Depuis, sur l'Européenne. Hein.
Ah, sur l'Européenne. Bon, il y a Cédric Defoix, Joe, Yannick, bien sûr. Et puis on a fait le tour. Hein.
Henri,
bien sûr. Oh, bien sûr. Henri,
et Proisy.
Ah, Patrick Proisy, Roland Garros aussi.
Vous êtes 6, simplement. Ouais. C'est très peu quand tu penses. Quand tu fais cette finale, tu es vraiment jeune. Est-ce que tu te dis. Qu'il y en aura d'autres. Est-ce que tu te le dis au fond de toi ?
Je ne me pose pas la question, en fait.
Non ?
Ouais, non, je ne me pose pas la question. Après, je suis entré dans une période où j'ai assez mal géré ce qui a suivi. Ouais, j'ai commencé à déraper un petit peu dans certains compartiments, parce que peut-être que je me mettais beaucoup trop, j'avais beaucoup trop d'attentes sur moi. Je voulais que les choses continuent à être si faciles qu'elles avaient été là depuis quelques mois. C'était facile, en fait. Je jouais au tennis, je gagnais des matchs, je faisais des demi-finales. Dans les gros tournois, je battais des top 10 régulièrement, à la régulière. C'était normal. Quand on regarde ma carrière, quand on regarde la carrière de la majorité des joueurs, de voir les résultats que j'ai pu avoir, par exemple, en Grand Chelem et en Master 1000. Master 1000, moi, j'ai fait une demi-finale et mon deuxième meilleur résultat, c'est un quart de finale. Voilà, sur quand même une carrière qui a été relativement longue, alors que j'ai fait d'autres bons résultats par la suite, même en Grand Chelem, 8e, un quart à Wimbledon. Mais ouais, non, je sais pas. Après, ce que je venais de vivre était si exceptionnel. Après, c'est vrai que c'était assez particulier. Enfin, après, il y avait de l'attente quand je m'alignais sur un Grand Chelem, hein, sur les Grands Chelems qui ont suivi, même s'il y avait beaucoup d'attente sur Roland Garros. Bon, j'étais assez lucide sur mon jeu sur terre battue et je savais que j'attendrais pas la finale de Roland Garros. Tu sais, quand on est obligé de l'aborder quand même, mais sans que ça soit. Moi, je suis très fier de cette finale, mais on le dit souvent, il y a toujours quand même un paramètre chance qui rentre en jeu dans un très gros résultat. Pas toujours, mais parfois. Et pour moi, ça a quand même été le cas. Moi, par la suite, tous les tournois que j'ai fait quand on dit qu'on n'a pas eu de chance, qu'on a perdu alors qu'on a eu des balles de match, peut-être tout ça passait assez facilement parce que je me suis dit, j'ai eu quand même une réussite assez extraordinaire en quart de finale et en demi-finale. Et voilà, et ça vaut de toute manière toutes les mésaventures qui pourront m'arriver jusqu'à la fin de ma carrière. Donc, ce caractère chance, il faut avoir tout. Je n'ai jamais été aussi fort tennistiquement. Physiquement, tout s'était bien passé dans les préparations. J'ai eu un tableau sans doute assez pas mal non plus. J'arrive en quart de finale sans avoir perdu un set. Voilà, tous les voyants sont ouverts. Et quand j'arrive justement dans ces très très gros matchs, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sauve balle de 7 au 3e, balle de 7 au 4e contre Kafelnikov. J'ai des débuts de crampes sur ce match-là. S'il y a 5-7, mon match, il est perdu. Et le match contre Sébastien où j'ai aussi beaucoup de réussite. Alors, on peut tourner toujours les choses de la manière dont on a envie de les tourner. La chance, elle t'a souri parce que t'as osé, parce que t'as été audacieux, parce qu'une balle de match, tu l'as sauvée en allant au filet. C'était le cas, c'est vrai. Mais j'aurais très bien pu prendre un passing et puis on n'en aurait pas parlé non plus. Donc y a tout ça aussi qui rentre en jeu. Et je suis assez lucide quand même sur ce qui s'est passé, sans minimiser, vraiment sans minimiser, sans vouloir minimiser justement ce résultat. Mais il y a quand même eu ce facteur qui est quand même rentré en ligne de compte.
On va pas le minimiser, je crois pas. Ça serait une énorme bêtise. Tu as raison d'être fier. Dis-moi, je te rappelais qu'il n'y avait que 6 Français qui avaient fait finale de Grand Chelem. La dernière en date, c'était il y a 13 ans déjà, c'est Joe, donc à l'Open d'Australie. La dernière victoire, c'est Yannick, en 83, il y a 38 ans. On regarde entre 2007 et 2016, il y a eu une demi-finale en moyenne jouée par un Français chaque saison, quelques exceptions près. Enfin, voilà. Et sur les 4 dernières années, finalement, il n'y a que Pouille qui a fait, donc Lucas, qui a fait cette demi à Melbourne encore d'ailleurs, en 2019. Je rappelle ton engagement auprès de Gilles Moreton, qui candidate à la présidence de la Fédération française de tennis et qui devrait prendre les rênes prochainement. Tu es à ses côtés dans cette campagne depuis le début. Est-ce que, enfin, je sais pas quelle lecture tu as finalement, alors je ne sais pas si on peut dire du problème, parce que j'aime pas le présenter sous cette forme, mais sur la formation. Alors, on va pas débattre pendant longtemps, mais on va se donner quelques minutes. Mais comment tu vois les choses, toi, aujourd'hui? Est-ce que tu trouves que justement le fait de présenter comme ça, c'est négatif? Toi, tu serais plutôt à dire, bah, c'est quand même finalement pas si mal d'avoir eu autant de quarts, de demi, de joueurs dans le dernier carré en seconde semaine. C'est quoi ta lecture justement du niveau du
Ah,
tennis
c'est
français de manière globale?
de manière globale depuis 15 ans, non, ça reste très solide, mais c'est parce que justement c'est tellement solide à haut niveau et il y a tellement de densité qu'on trouve aujourd'hui que c'est une anomalie qu'il n'y ait pas plus de finales de Grand Chelem jouées. On l'entend beaucoup, il y a quelque chose, je suis pas vraiment d'accord. C'est quand j'entends dire, je sais que certains joueurs le disent, et puis s'ils entendent ça, ben, sans doute ça ne va pas leur plaire, mais moi je ne suis pas vraiment d'accord avec, on est tombé sur une génération qui nous a empêchés d'aller gagner un grand chelem. Je ne suis pas d'accord parce que oui, c'est peut-être plus dur qu'à certaines périodes, mais quand même, je veux dire, parfois on se cache derrière. Voilà une vraiment bonne excuse. Celle-là, elle est tellement bien d'excuses qu'on l'emploie un petit peu trop, je trouve. Et vu qu'il y a des joueurs qui ont réussi quand même, hein, à performer, à battre tous ces top joueurs dans les grands chelems, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a eu Cilic, il y a eu Del Potro. Ils ont réussi un peu plus tard.
Rinka.
Il y a eu Wawrinka, faut pas oublier Wawrinka, ben, il a réussi. Et au contraire, ce qui est extraordinaire sur ces joueurs, c'est que sur le Federer, Nadal et Djokovic, Murray à une certaine époque, ils ont réussi chacun justement à se stimuler tellement qu'ils ont monté le tennis tous d'un cran vers le haut. Et seuls les joueurs, à un moment donné, qui se sont dit, ben, moi, voilà, ce qu'il faut faire pour aller les chercher, c'est ça. Et qui ont essayé, en tout cas, il n'y a que ceux-là qui ont réussi à le faire. Donc, de t'entendre trop aujourd'hui dire ça, je me suis dit, est-ce que ces joueurs-là, à un moment donné, ne se cachent pas derrière, ok, bah, de toute manière, on ne peut pas gagner parce que on ne peut pas battre Federer, Nadal et Djokovic d'affilée, quoi. Une fois, il suffit d'une fois, mais il faut pas se l'interdire. Et peut-être que certains, inconsciemment ou consciemment, se sont interdits un petit peu, justement, de pouvoir le réussir. Moi, je suis désolé quand
Et
je
tu
vois
penses,
du.
attends, pour essayer de comprendre, tu penses que les joueurs français, pour revenir à eux, n'ont pas suffisamment investi ou ne se sont pas suffisamment investis pour aller au bout d'un grand chelem? Ou tu penses que c'est ancré depuis maintenant trop longtemps, dans le sens où c'est impossible, la période est trop compliquée?
Ah, c'est dur de répondre. Je suis peut-être allé trop loin déjà sans mettre beaucoup de monde à dos, mais
Vas-y,
ouais,
continue, continue.
moi quand je vois, en fait c'est une question d'ambition dans le jeu aussi, d'ambition dans le jeu. Quand on peut avoir des petites carences, quand on peut, il faut les travailler, il faut croire quand dans son jeu on va voir que bah, contre un tel ou un tel, et ben ça va être très compliqué parce qu'il a des armes. Et ben il faut travailler justement pour combler ça. Wawrinka, je reprends cet exemple parce qu'il est magnifique cet exemple de Wawrinka. Wawrinka, il fallait le voir quand il est arrivé sur le circuit, bosseur. Acharné, franchement, c'était impressionnant la charge de travail. Par contre, qu'il pouvait encaisser. Par contre, bah, on voyait pas un mec doué, quoi. Alors quand on me pose la question tout à l'heure sur Federer, est-ce qu'on voyait un futur champion gagner des grands chelems? Bon, là, je dis bah, peut-être, mais peut-être top 10. Quand on voit Wawrinka jouer, on voit un joueur, on se dit franchement, il n'est pas doué. Hein. Il n'est vraiment pas doué. On ne voit pas son revers comme on regarde aujourd'hui et se dire oh, quel talent pur. C'est pas ça. Par contre, il a tellement bossé. Il est tombé sur la génération là, peut-être la plus dure, d'accord. Mais lui, il s'est dit, moi, je veux aller encore un cran au-dessus. Je vais tout faire pour. La question est, est-ce que tous nos joueurs, à un moment donné, ont eu cette démarche-là? Et c'est pas... faut pas que ça soit mal pris. C'est même pas une critique. C'est tout le monde n'est pas capable. La différence entre un immense champion, un grand champion, un champion, ce sont de tels détails que c'est difficile à un moment donné de mettre le doigt dessus. C'est difficile, quoi. Mais simplement, certains arrivent intérieurement à aller chercher des choses encore plus profondément, une volonté encore plus forte. Ça ne veut pas dire que nos Français n'en ont pas. Au contraire, ce sont tous des joueurs avec une volonté hors du commun. Mais je pense que ben, y en a ceux qui ont réussi. Ben, de ce point de vue-là, ils sont un cran au-dessus. Vous voyez, moi je reviens un tout petit peu. J'aime pas trop, mais je le fais sur moi. Mais moi, j'étais en finale d'un grand chelem. Mais j'ai jamais été proche de gagner un grand chelem. Jamais, quoi. Le seul qui a été proche de le faire, dans la jeune génération, c'est Joe. C'est Joe. Parce que Joe, sa finale contre Djokovic, le premier titre de Djokovic en grand chelem, il y a un match, c'est tendu, c'est 4-7, très accroché, ça peut basculer dans un sens, dans l'autre, on le sent. Et Joe avait, cette gagne en lui pour aller chercher vraiment un majeur. Les autres, je suis désolé de le dire, ce sont des champions extraordinaires qui ont été réguliers, qui ont atteint plusieurs fois des demi-finales de Grand Chelem, mais il y a les deux étapes les plus dures, c'est les demi-finales et la finale, quoi. Donc il y avait quand même un gros gap aujourd'hui. Après, moi j'aime pas, enfin c'est vrai qu'on est toujours sur tennis masculin et tennis féminin, on n'arrive pas à parler du tennis français dans sa globalité, mais on en oublie parfois, et tu l'as rappelé tout à l'heure, que voilà, le tennis féminin français a des formidables championnes qui ont gagné en grand chelem, et elles ont réussi dans des générations aussi où c'était pas simple, hein. Marie, Amélie, c'était pas simple. Marion, par exemple, c'est un très bon exemple. Marion, même si on va dire, ouais, mais Marion, son tableau à Wimbledon, elle n'a pas joué une joueuse dans les 30 premières, dans les 20 premières. Mais Marion, elle a ça en elle, ça se sent, quoi. Marion, elle n'aurait pas pu, je pense, être une meilleure joueuse de tennis que ce qu'elle a été, quoi. Elle avait un rêve, c'était Wimbledon. Et puis, elle allait au bout de son rêve. Elle a réussi à aller chercher ce petite chose supplémentaire que 99% des joueurs et des joueuses n'arrivent pas à aller chercher.
Mais donc, les mecs, pour revenir à eux, ils sont aussi allés au bout, à leur manière. C'est ce que tu dis. C'est qu'à un moment donné, ce petit truc, tout le monde ne peut pas aller le chercher, tout le monde ne peut pas réussir à le toucher, à le sentir presque. J'imagine qu'ils ont tous, et j'en suis même convaincu, on en a parlé à Joe là, il y a récemment, et qu'il a donné le maximum, tu vois, et que c'est son maximum à lui. Après, c'est peut-être pas le regard que tout le monde peut avoir, mais en même temps, c'est lui et lui, quoi. Enfin, je veux dire,
ce que je veux dire, c'est il y en a d'autres qui ont réussi, donc on peut pas simplement justement se dire l'excuse, c'est Federer, Nadal, Djokovic. D'accord, ça pour moi est Murray. Pour moi, ça, non, on l'évacue, même si on a le droit de le prendre en compte, on ne peut pas attribuer tout à ça. Par contre, de dire il manquait quelque chose par rapport à ces joueurs-là, j'ai quelque chose en moins de Del Potro, quelque chose en moins que Cilic, quelque chose en moins que Wawrinka, l'explication pour moi, elle est plus là. Et les seules personnes qui peuvent dire s'ils ont tout donné ou pas, c'est pas nous. Nous, on peut regarder, on peut essayer d'analyser des choses, on voit des trucs, parfois on se plante, parfois on a des mauvais jugements, on sait pas ce qui se passe aussi à l'intérieur des joueurs, leur démons, leur volonté. C'est pas ça. Nous, on peut pas le juger, on peut pas le jauger, parce que là, on parle pas d'un joueur qui a 50%, on parle d'un joueur qui a 95% et d'aller chercher les 5 derniers pourcents. C'est ça, quoi. Les seules personnes qui sont capables de juger ça sont les joueurs eux-mêmes. Et parfois même pour eux, c'est difficile de le faire. Parce que c'est parfois dur, parfois ils ne savent pas, parfois ils peuvent se mentir aussi, sans, manière complètement inconsciente. C'est possible, c'est possible, c'est dur, mais je pense que c'est quand même comme ça.
Un mot pour finir?
C'est un
Plaisir?
analyste qui
Plaisir?
n'engage que moi.
Non, mais ça n'engage que toi, ça, complètement. Et t'inquiète qu'on va la rappeler, ça. Non, mais écoute, je crois qu'on a fait un gros tour d'horizon. On est bien revenu sur ton épopée, ton aventure australienne. On te remercie d'en avoir parlé. La prochaine fois, j'essaierai de voir Sébastien. Et tu sais quoi? Je lui en parlerai. Je vais m'en occuper de ça. Ok? Je vous mettrai autour d'une table.
Bon,
Merci, Copain.
merci
Merci
de m'avoir
mille
rappelé
fois.
ces bons souvenirs, ces lointains
Merci.
souvenirs.
Deep Talk, c'est déjà terminé. Un immense merci à Arnaud Clément d'avoir accepté de revenir sur ce parcours australien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Deep Talk. Surtout, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter sur les plateformes de podcast. À bientôt. Salut.
3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.